apporté ce cycle de conférences. Bien, merci à tous d'être venus. Donc peut-être certains d'entre vous sont venus jeudi dernier, où un économiste bancaire nous a expliqué donc les différentes transformations du monde économique et financier, mais il n'a pas parlé du travail, il n'a pas parlé de l'homme. Donc c'est l'objet de cette deuxième conférence qui s'appelle « Quelle civilisation du travail nous voulons ?» Donc père, vous êtes prêtre jésuite, vous êtes économiste.
Personne n'est parfait.
Vous êtes professeur d'éthique des affaires. Notamment, vous avez enseigné à l'université de Fribourg en Suisse. Vous continuez, vous habitez à Lyon actuellement. Et vous tenez aussi un blog sur le site de Jésuite. Dans ce blog, vous parlez de différents sujets d'actualité.
Je précise, oui, effectivement, j'écris deux blogs par semaine. Un sur le site de la revue Études, www.revue-études.com. Et un autre blog sur le site des jésuites de Suisse romande, c'est jésuites.ch, comme confédération helvétique.
Voilà, donc aujourd'hui, vous allez, si j'ai bien compris, vous allez nous parler de notre civilisation, de notre travail, notre civilisation est ce qu'elle est, mais notre travail, est-ce qu'il y a une forme de souhaitable de travailler. Donc vous allez nous expliquer tout ça. Et puis, dernière information, si vous avez aimé la conférence du Père et que vous voulez continuer à discuter sur le sujet, n'hésitez pas à remplir une petite feuille qui est sur votre chaise, donc pour vous inviter à deux séances d'approfondissement qui suivront cette conférence. Voilà, bonne conférence.
Vous laissez combien de temps pour parler?
Il est une heure.
45 minutes de conférence, et 10-15 minutes de questions.
Voilà, merci beaucoup. Donc, le sujet de cette conférence, c'est « Quelle civilisation du travail voulons-nous » La réponse, c'est celle que je donnais tout à l'heure. Nous voulons une civilisation du travail qui fasse du travailleur non pas des objets, des objets mécaniques de la grande mécanique économique, mais des sujets de leur propre destin. Mon deux parties. Dans une première partie, je préciserai les termes de ce titre un peu elliptique. Civilisation, travail, et quel est ce nous qui voulons une civilisation, une certaine civilisation du travail. Et puis, dans une seconde partie, je parlerai des obstacles et la façon de jouer avec les limites que nous impose la civilisation dans laquelle nous sommes pour que le travail devienne véritablement, eh bien, créateur et non pas simplement un objet d'une mécanique. Donc, première partie, trois mots à expliquer. Civilisation, travail et le nous. Bon, la civilisation, vous savez ce que c'est, en tout cas vous le devinez intuitivement, c'est le rapport au monde technique, au monde de la nature, à ses lois, mais aussi le rapport à la société avec ses institutions et ses contraintes. Et la civilisation dans laquelle nous sommes, c'est la civilisation capitaliste libérale. Cette civilisation capitaliste libérale qui n'a pas que des inconvénients puisqu'elle a favorisé grandement l'augmentation de la productivité du travail, ce qui a permis dans une certaine mesure de neutraliser la pauvreté de masse. Je dis bien la pauvreté de masse, je ne dis pas toutes les pauvretés. Cette civilisation du travail, ce capitaliste dans lequel nous sommes, est fondée sur une culture qui est ce qu'on appelle la modernité, une culture qui est marquée par le rationalisme individualiste qui a été formalisé au XVIIe siècle, avec Descartes, Leibniz et compagnie, Spinoza, mais qui a fait effectivement prendre ses racines bien avant. Et on pourrait presque dire que cet individualisme sur lequel est fondée notre civilisation capitaliste provient des guerres de religion, parce que effectivement, de l'époque où on ne pouvait plus, on n'a pas pu continuer à imaginer que la civilisation puisse tourner autour d'une seule croyance, d'une seule religion. Bon. Cette civilisation donc capitaliste libérale, eh bien, elle a engendré une attitude vis-à-vis du travail qui est bien connue et que nous rencontrons pratiquement chaque jour, c'est que chacun ne se sent tenu de faire que ce à quoi il s'est engagé par contrat ou ce à quoi il a été obligé par la contrainte publique légale. Bon, c'est-à-dire que, eh bien, en dehors de ce que on s'est engagé à faire, eh bien, on considère que ce n'est plus notre affaire, que c'est l'affaire de quelqu'un d'autre. Bon. Et cette civilisation donc individualiste, eh bien, elle se rapporte notamment, et elle a une conséquence immédiate, sur le travail. Alors le travail, qu'est-ce que c'est ? Le travail, vous savez ce que c'est, puisque vous êtes, vous travaillez, et je ne parle pas simplement du travail salarié, je parle de toute forme de travail. C'est une dépense d'énergie pour modifier l'environnement naturel, l'environnement social, l'environnement familial, bon, pour transformer l'environnement, mais pour l'adapter au mieux, eh bien, aux besoins, aux désirs de celui qui travaille. Mais en faisant cela, le travail modifie également et transforme également le travailleur, soit en bien, c'est toute la formation, le learning by doing, c'est une façon de se former par le travail, mais il y a aussi la formation antérieure et puis la formation permanente. Bon, ça c'est, j'allais dire, en positif, puis en moins positif, pour ne pas dire en négatif, le travail permet de développer certaines capacités, mais conduit à atrophier d'autres capacités du travailleur. Et ça, c'est visible du point de vue physique, mais également du point de vue mental. Il y a des capacités que l'on a développées et puis d'autres, eh bien, qu'on a laissées en friche. Et bien sûr, à la limite, eh bien, ça aboutit à ce que connaissent bien les médecins du travail. À la limite, ça va jusqu'au burn-out, c'est-à-dire cette incapacité du cerveau à assumer la moindre réflexion capable d'être mise en œuvre dans un travail. Ou, là encore, ça peut aussi conduire à une forme de maladie spirituelle qui consiste à ne plus trouver de sens dans ce que l'on fait, à ne plus trouver de sens dans son travail. Et à ce moment-là, eh bien, on parle soit de burn-out, soit de brown-out. Bon, bref, c'est une maladie qui est bien connue depuis très longtemps, puisque les pères de l'Église, dans les premiers siècles chrétiens, enfin du moins les premiers moines, parlaient de l'acédie. L'acédie, c'était au fond le goût pour rien. On a tellement le goût pour rien qu'on ne fait rien et qu'on ne sait pas comment faire quoi que ce soit. Bon, alors donc, le travail, c'est une dépense d'énergie qui a comme objectif d'améliorer les conditions de vie du travailleur ou de la société et qui a quand même quelques limites, que ce soit en matière de transformation de la nature, on le voit bien avec les questions écologiques, que ce soit aussi en matière de biologie du travailleur. Alors, voulons-nous ? Qui est ce « nous » ? Bon, ben, nous sommes dans une maison d'église, ici, Notre-Dame de Pentecôte, et le « nous », c'est évidemment les chrétiens. C'est de ce point de vue-là que je vais parler. Les chrétiens qui, bien sûr, se baignent, ou connaissent, moins, mais enfin disons, baigne dans la tradition ou dans la tradition chrétienne. Or, ce qu'il faut bien souligner, c'est que cette tradition chrétienne, eh bien, ne se confond pas avec la civilisation dans laquelle nous sommes. Et j'en donnerai trois exemples, trois piliers. D'abord, en matière de conception de l'être humain, là où notre civilisation parle de l'individu, l'individu souverain, l'individu raisonnable, en tout cas doué de raison, où la raison est en quelque sorte enfermée dans son cerveau, Eh bien, la tradition chrétienne ne va pas parler d'individu, elle va parler de personne. Et la personne, c'est un être en relation, c'est un être qui est d'emblée social, qui ne dit pas, ah bien oui, il y a des individus raisonnables qui ont beaucoup réfléchi et qui finalement ont trouvé mieux de se mettre ensemble et de fonder des sociétés sur la base contractuelle. C'est toute la tradition du contrat social. Eh bien non, la tradition chrétienne va dire, non, l'être humain est d'emblée, s'inscrit d'emblée dans une société, d'abord dans une famille, mais plus encore, bon, dans des associations et finalement dans des organisations politiques, eh bien, dans lesquelles il est partie prenante. On ne peut pas l'isoler. C'est une abstraction que de parler d'un individu qui serait tout seul doué de raison. D'autant plus que la raison dans la tradition chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui est une qualité propre au cerveau, c'est quelque chose qui est d'emblée coulé dans le langage. Et qui dit langage dit que, eh bien, effectivement, c'est inter-individuel, c'est social. Bon, ça, c'est sur le point de la conception de l'homme. Mais il y a aussi une différence sur le plan de vue politique. Là où notre civilisation parle d'intérêt général opposé aux intérêts particuliers, et effectivement, au nom de l'intérêt général, eh bien, on accepte plus ou moins volontiers de réduire ou de diminuer les intérêts particuliers au moins de certaines catégories des membres de la société, eh bien, là où notre civilisation parle d'intérêt général et d'intérêt particulier, la tradition chrétienne va parler de bien commun. Le bien commun, c'est non pas le bien de la collectivité, c'est dans le genre zéro à infini, non, c'est le bien de chacun des membres de la communauté, le bien de chacun, bien sûr, dans la solidarité de tous. Il y a bien donc une contrainte sociale reconnue par la tradition de l'Église, mais cette contrainte sociale est au service de chacun des membres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sacrifier un membre ou même une minorité sous prétexte que bien, la collectivité s'en trouverait mieux. Et le troisième courant, le troisième pilier de cette doctrine sociale de l'Église qui se différencie de la civilisation dans laquelle nous sommes, c'est en matière sociale, après l'anthropologie, la conception de l'être humain, après la politique, il y a le côté social. Là où notre civilisation parle volontiers de la masse, de la moyenne, de la majorité, et finalement du plus grand nombre, ça c'était la théorie de Bentham, il faut choisir des choses qui soient pour le plus grand bonheur, pour le plus grand nombre. Eh bien, la tradition chrétienne s'inscrit en faux contre cela. Il dit, c'est pas le plus grand nombre qu'il faut voir. C'est celui des membres de la collectivité qui se trouve dans la situation de plus grande faiblesse, ce qui évidemment est assez différent. Alors, ces trois courants conduisent pour le travail à trois principes qui sont propres, que d'autres peuvent partager, mais qui sont véritablement au cœur de la conception chrétienne du travail. D'abord, la dignité du travailleur. Le travailleur n'est pas une ressource, ce n'est pas un rouage dans une mécanique, ce n'est pas un objet que l'on peut manipuler comme ça. Non, c'est un être humain qui a sa dignité. Et le propre de la dignité de l'homme, c'est qu'il a non seulement ses objectifs que l'on peut reconnaître partout et que tout le monde pourrait comprendre, mais il a le sens, un sens qui lui est singulier. Un jour, il y a quelques années, il y a une interview qui a été faite d'un chef d'entreprise américain. On lui demandait quel était le sens de son travail de chef d'entreprise. Et puis alors il a dit, le sens de mon travail, c'est que mon entreprise demeure dans le premier quart de la liste des entreprises classées par le magazine Fortune selon le critère de la rentabilité des capitaux propres. C'est très intéressant comme formule, parce qu'il y a un aspect objectif là-dedans. Bon, en dépit des discussions des comptable, on peut à peu près savoir ce que c'est que la rentabilité des capitaux propres. Être classé dans une liste, on voit aussi ce que c'est. Bon, mais il ne disait pas simplement ça. Ça, tout le monde pouvait le comprendre. Mais il disait que c'était ça qui donnait le sens de son travail. Mais ça, c'était singulier, c'était très particulier à lui. Et s'il imaginait que c'était ça qui pouvait donner le sens au travail de ses collaborateurs, il se mettait le doigt dans l'œil. Pourquoi ? Parce que le sens, ce qui donne sens à votre travail, c'est quelque chose qui est singulier, qui vous est propre. Or ça, ça fait partie de la dignité du travailleur. Le deuxième principe que la tradition chrétienne tire concernant le travail, c'est le primat du travail sur le capital. Alors, elle ne dit pas que le capital est secondaire. Il dit simplement qu'il est second, parce que le capital, c'est effectivement ce qui a permis et ce qui permet une augmentation de la productivité du travail. Et donc, une lutte contre tout ce qui est une forme de gaspillage. Il y a bien sûr le gaspillage qui consiste effectivement, à dépenser des choses inutiles, mais il y a le gaspillage qui consiste à ne pas mobiliser toutes les capacités humaines pour favoriser le travail. Comme disait mon grand-père, gaspiller c'est pire que voler. Hein, il ne dit pas que voler c'était bien, il disait que c'était pire. Pourquoi ? Il disait que c'était pire. Alors, au moins respecte le travail du travailleur, tandis que, parce qu'il trouve que c'est ça une valeur, puisqu'il l'empoche. Enfin, il y a bien des gens suffisamment pervers pour détruire. Sans autre plaisir que celui de détruire. Enfin, bon, mais tandis que le gaspilleur, eh bien lui, il ne respecte même pas le travail du travailleur. Bon, donc, quand on dit primat du travail sur le capital, ça veut dire que le capital n'est pas quelque chose à négliger. C'est au contraire quelque chose qu'il faut cultiver avec intelligence, mais toujours avec comme perspective le travailleur, sa famille, comme le précise la tradition de l'Église, etc. Ça, c'est le deuxième principe. Et puis, le troisième principe tiré des courants de l'Église, c'est bien sûr le principe de la participation de chaque travailleur à l'organisation de son travail. Alors, attention. Cela a été traduit, enfin cela a été réfléchi, thématisé sous la forme d'un principe qui est bien connu, qu'on retrouve même dans les principes fondamentaux de l'Union européenne et même dans certains textes de loi, qui s'appelle le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité n'est pas d'origine catholique. Le principe de subsidiarité a été d'abord mis en œuvre dans les églises luthériennes protestantes au XVIe siècle, qui consistait à faire remarquer que toutes les paroisses avaient l'autonomie suffisante pour prendre les décisions qui les concernent, sauf si elles n'avaient pas les moyens de les prendre. À ce moment-là, il fallait que ce soit l'échelon supérieur qui les prenne. Donc le principe de subsidiarité, c'est le principe selon lequel c'est celui qui va en subir les premières conséquences qui doit prendre la décision qui le concerne. Mais attention, le principe de subsidiarité est soumis au principe de solidarité. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un atelier ou un service administratif puisse prendre des décisions qui aient des conséquences négatives sur les autres ateliers ou sur les autres services. Bon, donc, j'ajoute aussi que ce principe est un principe moral et ce n'est pas un principe juridique. Le président Giscard d'Estaing, quand Jacques Delors a inséré le principe de subsidiarité dans les textes de l'Union européenne, a dit ben non, mais ça va être extrêmement compliqué. Vaut mieux préciser ce que chacun a le pouvoir de faire, quel est le domaine de chacun. Les bonnes frontières font les bons voisins. Bon, tandis que le principe de subsidiarité, il est flou. Et c'est vrai qu'il est flou. Pourquoi ? Parce que si vous ne donnez pas à votre subordonné les moyens de prendre les décisions qui le concernent, effectivement, vous pourrez très bien dire, application du principe de subsidiarité, dans les limites de la solidarité, il n'a pas les moyens de prendre la décision, donc je la prends à sa place. Bon, c'est pour ça qu'il y a effectivement tout un art, ou en tout cas tout un discernement à opérer, lorsque on parle de l'application du principe de subsidiarité dans le travail. Alors, donc, ces trois principes concernant le travail, sont résumés dans une formule théologique qui consiste à dire, le travail est ou devrait être une participation à l'œuvre créatrice de Dieu. Bon, c'est effectivement une formule théologique qui est très belle, bon, mais évidemment, le problème, c'est que les principes se heurtent pour les mettre en œuvre à un certain nombre de limites. Et il y a, j'en arrive donc à ma seconde partie, donc après avoir précisé ce que j'entends par civilisation, par travail et par nous, eh bien, j'en arrive à la deuxième partie, qui consiste à dire quelles sont les difficultés, les limites auxquelles se heurtent ces principes pour être mis en œuvre. Et ces limites sont pas des diktats, ce sont des lois, on pourrait presque dire, il faut les considérer comme des maîtres d'école, c'est-à-dire qui précisent un certain nombre de contraintes, mais des contraintes qui peuvent être fluctuantes, il y a un jeu possible dans ces contraintes. Il y a, on pourrait dire, c'est un cadre, mais un cadre extensible. Et c'est bien ça que je vais essayer de montrer. Or, on pourrait mettre ces trois contraintes, ces trois impératifs, sous trois désignations. On pourrait appeler le maître des horloges, le maître des machines et le maître de l'histoire. Et d'abord, le maître des horloges. Eh bien, tout le temps, tout travail s'inscrit dans la durée, et cette durée est soumise au rythme des lois de la nature et au rythme des lois de la société. Nos ancêtres préhistoriques, chasseurs-cueilleurs, étaient soumis au rythme des saisons, l'époque où les fruits revenaient sur les arbres, l'époque où le gibier réapparaissait auprès des rivières. Bon, mais effectivement, on pouvait imaginer qu'un chasseur intelligent ou quelques membres de sa tribu qui était capable de conserver pendant quelques mois le fruit de la cueillette ou de la chasse, et là, ça donnait une petite marge de liberté. Bon, évidemment, à partir du moment où la civilisation est devenue une civilisation agricole, à partir de l'âge de bronze, la marge de liberté s'est légèrement accrue. Bien sûr, il y avait toujours le rythme des saisons, le rythme du travail, qui est rythmé le travail. En choisissant le type de culture, en choisissant les bons moments pour cultiver, pour ramasser les fruits, on pouvait un peu limiter cela. Aujourd'hui, ça va très loin, parce que, pour ne donner qu'un exemple, vous avez dans la Limagne, qui est une plaine entre Vichy et Clermont-Ferrand, vous avez une société coopérative qui produit du maïs semence. Et pour sélectionner son maïs semence, elle a réussi à diviser par deux, en quelque sorte, le temps cosmique. Comment elle fait? Tout simplement en cultivant une partie de l'année en Auvergne, dans l'Allemagne, et une autre partie de l'année en Amérique latine, ce qui lui permet d'avoir deux fois les mêmes saisons dans les mêmes 365 jours. Bon, il y a effectivement je ne parle pas de l'agriculture aussi hors sol, qui permettent effectivement une marge plus grande. Évidemment, dans la civilisation capitaliste dans laquelle nous sommes, qui est civilisation industrielle d'abord et civilisation financière ensuite, la lutte contre ce maître des horloges a pris une ampleur considérable, puisque en quelque sorte le chronométreur a joué un rôle fondamental dans l'organisation scientifique du travail, mais aussi l'organisation du travail, le type de travail a été en quelque sorte subordonné à cette recherche de de diminution du temps de travail. Et évidemment, cette diminution du temps de travail a donné une figure différente aux responsables économiques. Au XIXe siècle, à l'époque du capitalisme industriel, la figure, c'était celle de l'ingénieur qui était capable de faire tourner les machines sans trop d'accidents et de façon régulière. Et puis, à partir de la fin de la guerre de 14, c'était le manager. Le manager, c'était quelqu'un qui connaissait les techniques disponibles, mais qui aussi, en même temps, avait le sens du marché, de savoir qu'est-ce qu'il fallait produire pour qu'on puisse valoriser le travail. Et puis, aujourd'hui, c'est encore autre chose. C'est celui qui est capable de mobiliser l'énergie et le travail des collaborateurs, c'est le leader. Et tout ça, bien sûr, c'est sous la direction et sous, en quelque sorte, le diktat de financier. Parce que la finance n'est jamais qu'une façon d'essayer de maîtriser le temps et la durée. Si je finance vos études, c'est que je vous donne le temps de les terminer en espérant que vous arriviez à les valoriser. Mais en contrepartie, je prends le risque que vous ne trouviez pas l'opportunité de me rembourser. Et donc, la finance reste en quelque sorte l'ombre tutélaire de toute cette contrainte de temps du maître des horloges. Le maître des horloges, il y a le maître des machines. C'est que pour augmenter donc la productivité du travail, pour essayer de se défaire des contraintes de temps et de durée, il faut organiser le travail, il faut trouver des machines ou des outils plus performants, mais ce qui fait que ce que vous allez gagner au niveau de la durée, vous allez le perdre au niveau de l'espace. Pourquoi ? Parce que pour découvrir des moyens, des outils le plus performants, il faut pratiquement vous adresser à des gens qui ont une spécialité qui, le plus souvent, n'est pas la vôtre. Alors évidemment, si vous tenez à maîtriser les outils que vous utilisez pour le travail, et si vous avez un bout de jardin, il vous reste à peu près comme outil que le bâton à fouir. Le bâton à fouir, c'est dans certaines civilisations rurales, un bâton pointu que vous durcissez au feu. Avec ce bâton, vous faites un trou dans le sol. Dans le trou, vous mettez une graine, vous mettez ensuite votre talon par-dessus pour enfoncer la graine. Bon, évidemment, ça, vous ne dépendez de personne d'autre que de vous-même. Mais dès que vous voulez utiliser des outils un peu plus performants, vous allez vous trouver assez vite obligé de faire appel à des spécialités qui ne sont pas les vôtres. Ce qui fait que la division du travail, division technique du travail, division sociale du travail, le fait que vous utilisiez des sous-traitants et tout, ça va augmenter le risque économique et à la limite, si on met une partie du développement financier, mais ça je suppose que vous l'avez entendu la semaine dernière, une partie du développement de la finance vient du fait de l'élargissement de l'espace économique, l'élargissement aux dimensions du globe. C'est-à-dire que le risque n'est pas le fait que vous fassiez travailler des gens de Taïwan ou de Singapour. Le risque, il vient du fait que, pour résister à la concurrence qui est le fruit de l'élargissement de l'espace économique, vous vous concentrez sur votre cœur de métier, et vous concentrant sur votre cœur de métier, vous dépendez de plus en plus de métiers, de spécialités qui ne sont pas les vôtres. Bon. Et l'un des moteurs du fort développement de la finance depuis 40 ans a été justement l'augmentation des risques. Bon, je ne rentre pas dans ces détails que vous avez sans doute entendus la semaine dernière. Donc, ce qui fait que le maître des machines, Évidemment, Janis, on le représentait sous forme plus ou moins caricaturale comme le capitaliste avec son haut de forme et fumant son cigare. Bon, mais en fait, il devient anonyme. Anonyme dans tous les sens du terme, puisque une des caractéristiques de du capitalisme contemporain est venue avec la création à la fin du XVIe siècle de la première société anonyme, c'est-à-dire où on a pu distinguer entre comptabilité en partie double, en quelque sorte, entre ceux qui possèdent et puis ceux qui décident. Et donc entre le passif en quelque sorte et puis l'actif dans une comptabilité. Et ça, c'est quelque chose qui aboutit à rendre de plus en plus anonyme celui qui est le propriétaire, le maître des machines. Et donc on pourrait même ajouter que ce maître des machines, eh bien, n'est pas le propre d'un capitalisme libéral. Même dans une société pleinement planifiée, eh bien, il y a aussi un maître des machines, un plan, et les administrateurs du plan, eh bien, jouent exactement le même rôle. Pour la petite histoire, certains économistes marxistes avaient découvert dans Marx quelques paragraphes concernant le mode de production asiatique. Alors, Marx parle du mode de production asiatique. C'est un mode de production que l'on trouvait plus spécialement en Asie, où finalement il faisait remarquer que ceux qui exploitaient le travail, ben, ce n'étaient pas des capitalistes qui étaient propriétaires, mais c'était les gestionnaires qui administraient les canaux d'irrigation des rizières. Alors, les mauvaises langues avaient dit, mais au fond, mais est-ce que le système soviétique ne serait-il pas un mode de production asiatique où il y a une exploitation du travailleur sans avoir de propriété privée du capital? Alors évidemment, comme ça ne plaisait pas tellement à Staline, toutes les études sur ce sujet ont été interdites, et ce n'est que après le 14e congrès, après la... au moment de Khrouchtchev, qu'on a dit, ah ben oui, mais effectivement, il y a des études à faire de ce point de vue-là. Tout ça pour dire que le maître des machines n'est pas nécessairement des propriétaires privés du capital. Bon. Maître des horloges, maître des machines, et le troisième maître que je vous avais annoncé, c'était le maître de l'histoire. Alors l'histoire, vous savez, c'est la conjonction de deux courants. Un courant continu, en quelque sorte, qui met l'accent sur la continuité de l'histoire, et puis un courant qui met l'accent sur les ruptures. On pourrait d'ailleurs placer ces deux courants sous intitulé « Deux historiens célèbres ». Pour la continuité, en ce qui concerne le capitalisme, on pourrait parler Fernand Braudel, qui avait étudié la naissance du capitalisme dans la Méditerranée du Nord au XVIe siècle, et qui faisait remarquer, contre une lecture un peu superficielle de Max Weber, que le capitalisme n'a pas attendu le protestantisme pour naître et se développer, et que non seulement les techniques productives, mais également les techniques financières, étaient déjà connues dans l'Italie du Nord dès la fin du Moyen Âge, enfin, en Lombardie notamment. Enfin, tout ce qui concerne la comptabilité en partie double, ce qui concerne les lettres de change, ce qui concerne les varans, tout ça c'était pratiqué dans l'Italie du Nord bien avant Calvin. Et donc il faisait remarquer qu'il y a une continuité de l'histoire capitaliste qui ne vient pas d'une décision de gens particulièrement qui ont décidé de changer de type de civilisation et de travail. En ce qui concerne les ruptures, il faudrait mettre ça sous le titre, sous la présidence en quelque sorte d'un historien anglais du 19e siècle, Arnold Toynbee, qui faisait remarquer que l'histoire est le fruit de de héros, de gens qui marquent des ruptures dans l'histoire. Alors ces héros, pour lui, c'était essentiellement les chefs de guerre, Alexandre, César, Napoléon. Et puis il dit, oui, bon, il y a quelques grands chefs d'État, Charlemagne, Crésus, Cyrus. Bon, et aujourd'hui, eh bien, dans cette ligne-là, il faudrait dire, ben oui, ben, l'histoire du capitalisme et du travail, il vient d'un certain nombre de chevaliers d'industrie. Bon, ben, au XIXe siècle, on pouvait parler de... à cheval sur le 20e, on pourrait parler d'Henry Ford, aujourd'hui on parlerait de Jeff Bezos ou de gens comme ça. Bon. Mais en fait, dans la pratique, eh bien, l'histoire n'est jamais le pur fruit d'une décision d'un individu fort et charismatique qui a réussi à imposer une vue nouvelle. Ce n'est pas non plus le fruit spontané et naturel d'un courant, c'est quelque chose qui, en fait, est le fruit d'une configuration où jouent en même temps les contraintes économiques, les contraintes techniques, les contraintes sociales, mais aussi la culture. Ça, il faudrait revenir à Max Weber, qui, contrairement à une lecture un peu simpliste, faisait remarquer que il ne prétendait pas que le capitalisme était né de quelques sectes protestantes. Il disait, contre Marx, qui prétendait que le travail, la civilisation du travail dans lequel on était, venait de la technique, en disant ben, le moulin à eau vous donne la civilisation du Moyen-Âge, le moulin à vapeur vous donne la civilisation industrielle. Alors, Max Weber dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est que il y a une configuration où jouent en même temps les techniques, les institutions et aussi la culture, y compris la culture religieuse. Et c'est effectivement dans ce cadre-là que que peut se jouer une adaptation du travail. Alors, j'en arrive dans une conclusion qui sera un tout petit peu longue, mais enfin, il ne prendra pas plus de 7 minutes, ce qui me permettra de rester dans le temps imparti. J'en arrive à ma conclusion qui dit, mais enfin, avec tout ça, eh bien, que faire? Ça, c'est déjà la question posée Lénine, que faire? Bon, eh bien, il y a un an et demi, en mai 2017, Rome a produit un texte sur quelques questions financières et monétaires, et dans lequel il proposait qu'il y a trois niveaux d'action. Il y a trois niveaux d'action, effectivement, qu'on peut reprendre en matière de travail. Il y a le niveau individuel, le niveau de chaque personne, qui est en fonction de ses choix de vie, en fonction de ces types de consommation, de ces types d'investissement et d'épargne, eh bien, peut influencer eh bien, d'une certaine façon le travail. C'est aussi, bien sûr, en fonction de ses choix politiques et de ses votations, comme on dit en Suisse. Bon, donc, il y a ce premier niveau. Il y a bien sûr un deuxième niveau, là, qui est plus directement opératoire, c'est le niveau de l'entreprise, où, en fonction des procédures mises en place, eh bien, on peut plus ou moins favoriser ce travail créatif. Lorsque, effectivement, et ça c'est la dérive actuelle qui est due à la peur du risque, la dérive actuelle vers la compliance, où finalement, eh bien, ça conduit non seulement à morceler le travail, mais ça conduit chacun à vérifier que, non pas qu'il ait fait un travail utile ou productif, mais qu'il ait fait un travail selon les normes prescrites. Or, cette attitude qui consiste au fond à mettre le travailleur non pas face à un objet social, à une œuvre à accomplir en commun, mais à des règles à appliquer, eh bien ça c'est très exactement ce que l'Évangile reproche aux pharisiens. Les pharisiens étaient des gens très bien. Les pharisiens, c'était des gens qui avaient découvert que dans le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible, il y avait pas moins de 613 commandements. Et donc, leur problème, c'était comment appliquer les 613 commandements. C'était évidemment très difficile quand il y en avait autant à appliquer. Et bien, aujourd'hui, on en est revenu un peu à ça, quand effectivement, on demande aux collaborateurs et aux opérateurs d'appliquer les rubriques, les procédures, les protocoles, les règlements, en disant c'est là-dessus que vous allez être jugé. J'en ai un exemple dans ma communauté à Lyon. On a un cuisinier, son seul souci, c'est quelle est la note qu'il a obtenue pour le contrôle d'hygiène. Pourquoi ? Parce que c'est là-dessus qu'il est jugé. Donc, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est moins bon ? Ça, c'est secondaire. Par contre, ce qui est premier, c'est effectivement comment il a appliqué les règles. Et ça, évidemment, lorsque vous êtes comme ça, c'est pas une manière qui favorise le respect du travailleur, c'est pas une manière qui favorise la créativité. J'ai un deuxième exemple qui me vient, mais ça, c'est un exemple bancaire. Lorsque vous regardez, je sais pas s'ils l'ont changé depuis, mais la formation des cadres à l'éthique, il y a la procédure intranet qui effectivement fournissait à chaque cadre un certain nombre d'exemples sur ce qu'il faut faire dans un certain nombre de situations. Ça s'appelait d'ailleurs Risk and Compliance. Le but, c'était effectivement d'éviter les risques et de montrer une belle image de l'entreprise. Or, après avoir donné un certain nombre d'exemples, tout ça, il y avait des tests pour savoir si le cadre avait bien compris. Et parmi les tests, il y avait celui-ci qui m'a sauté aux yeux, qui m'a fait bondir. Il y a un test sur l'acceptation de cadeaux. Voilà. Alors, Monsieur Martin, on voit Monsieur Martin, très, très réjoui, vous envoie une lettre, libellée de la façon suivante. Cher monsieur, j'ai été très satisfait de la façon dont vous avez géré mon dossier pour vous montrer ma satisfaction. Ne sachant pas si vous aimez les chocolats, je me permets de joindre à cette lettre quelques menus monnaie. C'était de l'ordre, le chiffre c'était 200 francs suisses, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, il y avait marqué « Cliquez sur la bonne réponse ». J'aurais pu accepter la boîte de chocolat, mais je dois refuser l'argent. Deuxième réponse, je peux accepter la boîte de chocolat, je peux accepter l'argent parce que c'est à peu près ce qu'il faudrait pour acheter une grosse boîte de chocolat. Et puis troisième item, je peux accepter l'argent à condition d'acheter une boîte de chocolat que je partagerai avec mes collègues. Alors, ce genre de test est tout à fait pervers. Non pas parce qu'on pourrait imaginer d'autres solutions que les trois items qui étaient proposés, mais c'était le cliquer sur la bonne réponse. Parce qu'on fait comme si, dans toutes ces situations de ce genre, il n'y avait qu'une seule bonne réponse. Vous comprenez que si c'est un vieux client qui ne sait pas comment vous remercier, et si vous lui refusez, vous lui renvoyez c'est deux billets de 100 francs suisses, il va prendre ça pour une insulte. Ça ne sera pas nécessairement une bonne chose pour la vue de l'entreprise. Et c'est la même chose, d'ailleurs, en parenthèse, pour le dress code. Ça, si vous voulez vous marier, je vous enverrai un jour le dress code du BS. J'ai encore une minute. Donc, agir au niveau personnel, au niveau de l'entreprise et au niveau politique, bien entendu, à travers l'orientation de la politique nationale et bien sûr des accords internationaux, notamment sur le travail. Je souligne d'ailleurs que de ce point de vue-là, l'Organisation internationale du travail a eu l'intelligence, non pas de promouvoir les mêmes critères pour tout le monde dans tous les pays, mais promouvoir ce qu'ils appellent le travail décent, qui est modulé en fonction du niveau de vie et des traditions propres de chaque pays. Donc, c'est trois niveaux. Mais ces trois niveaux d'action, en fait, n'aboutiraient pas au résultat si ceux qui, je veux dire, s'y engagent, n'avaient pas dans l'esprit, eh bien, ce souci de la dignité du travailleur, du primat du travail sur le capital et du souci de rendre le travail le plus créatif possible pour le travailleur. Bon. Alors, comment on va faire ça? Bon, ben, il y a deux moyens. Le premier, c'est de faire ce que Dieu a fait dans la légende de la Bible, c'est arrêter le septième jour. Bon, il s'est arrêté, c'est ce qu'il a fait, Shabbat. Bon, alors évidemment, le repos du septième jour, ça peut être interprété de deux façons. Soit la façon de Karl Marx, qui dit, ben oui, mais le repos du septième jour, ou le repos, ça fait partie du travail, puisque c'est une façon de reconstituer la force de travail. Alors donc finalement, bien, le loisir, tout ça, c'est très bien, mais en fait, ça fait partie de la même logique capitaliste qui essaye d'augmenter la plus-value en augmentant la productivité du travail. Bon, ça, c'est la façon marxiste. Mais vous avez une deuxième façon de l'interpréter, ce repos du septième jour, c'est-à-dire c'est le jour où vous pouvez faire la relecture du travail des jours précédents, et en essayant d'en trouver l'unité. Alors si vous ne voulez pas vous perdre dans ces considérations bibliques, ben, je vous laisserai sur la formule de mon grand-père, qui disait qu'on n'a pas toujours le travail qu'on aime, mais on peut toujours essayer de s'efforcer à aimer le travail qu'on a. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Père. Donc nous avons un peu de temps pour quelques questions. Est-ce qu'il y a un premier ou une première courageuse? Ah, monsieur. Ah non. Ce que vous disiez dans l'entreprise, hein, favoriser le sens par rapport au contrôle, par rapport au respect des contrôles et vos exemples qui étaient très clairs. Il n'en demeure pas moins que certains secteurs sont ou sont devenus aujourd'hui extrêmement réglementés. Donc il faut vivre avec ces règles, peut-être pas les ériger effectivement comme fin, mais malgré tout elles sont là. Donc justement, comment faire coexister le sens avec les contrôles, et d'ailleurs en ne les opposant pas finalement, en ne les opposant pas, parce que les contrôles peuvent aussi in fine amener l'entreprise à mieux contribuer.
Merci. Vous avez parfaitement raison, parce que le contrôle, j'allais dire, il ne peut que s'accentuer compte tenu de la coupe. On ne peut que s'accentuer compte tenu effectivement de la subtilité et la complexité des travails et des processus. Et là, effectivement, on ne voit pas. On ne peut pas revenir en arrière en disant non, vous inquiétez pas, faites à peu près ce que vous pensez et puis ça ira bien. Non. Alors il faut faire avec, mais en essayant quand même, et c'est ça l'effort à faire, de donner aux le sens de l'objet social qui finalement va être le fruit de leur contrôle. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des contrôles qui doivent être minutieux, stricts, bon, mais il faut leur faire comprendre que ces contrôles ne sont pas faits. Effectivement, il va y avoir un résultat qui va être qui va péjorer l'objet social de l'entreprise, qui va péjorer en fait tout ce qui peut donner sens au travail comme participation à une œuvre commune. Parce que supprimons les contrôles. Certes, il y a des contrôles qui sont superfétatoires, mais généralement, ça, comme ça coûte, comme là-dessus, il y a peut-être une marge de progrès. Bon, j'ai quelques exemples en tête où effectivement.
Explication aussi, pour être sûr d'avoir compris, votre deuxième principe chrétien sur le travail, vous l'avez cité comme primat du travail sur le capital. Et en fait, est-ce que vous voulez dire primat du travailleur sur le capital ou est-ce que c'est vraiment primat du travail oui, auquel cas, comment faut-il le comprendre?
La formule que vous trouvez dans la doctrine sociale de l'Église, c'est le primat du travail. Mais effectivement, ça n'a pas de sens. C'est le travail en soi, c'est le travailleur, bien entendu. Enfin,
Moi, je ne partage pas votre analyse sur le fait que les contrôles superfétatoires, il n'y en a pas tant que ça. Il peut y avoir des moments où il y a des règles qui ne sont pas adaptées. Oui. Et dans ce cas-là, bah, voilà, faut. C'est en sorte, comme vous dites, par travail personnel, dans l'entreprise et puis dans la réglementation de changer ce qui ne va pas. Mais pour le travail, vous n'avez pas parlé d'une forme de travail qui se développe aujourd'hui et même qui est peut-être une forme de travail extrêmement, je pense, importante et puis aussi porteuse d'espoir pour le progrès de la civilisation, c'est l'entrepreneuriat. En France, il y a eu, par exemple, l'auto-entrepreneur qui a été très critiqué. C'était, je voulais avoir votre avis sur est-ce que, quel est le sens, quel est l'avenir et le poids de ce type de travail.
Tout à fait. Vous avez raison, de pointer une lacune, effectivement, de mon exposé, parce que je n'ai effectivement pas parlé du travail de l'auto-entrepreneur, ou du travail d'entrepreneuriat qui est effectivement, essentiel. Essentiel, pas simplement pour l'individu qui essaye de se mettre à son compte, mais essentiel aussi comme créateur d'emploi et pour un potentiel pour les autres. Car contrairement à une idée, plus on travaille et plus on produit, plus on voit. Alors, ce que j'en pense, beaucoup de bien, évidemment, mais avec l'entrepreneuriat, c'est que on prend un risque. Et la difficulté, c'est comment associer, intégrer la peur du risque, en quelque sorte, dans sa démarche. Alors évidemment, ceux qui se sont lancés, je connais quelques entrepreneurs qui se sont lancés, qui ont créé des entreprises, je vais vous donner quelques exemples, mais à qui je posais la question, le risque, comment vous l'avez vécu, je ne dis pas géré, parce que vécu, la réponse a souvent été de dire, effectivement, au départ, il y avait un pas à franchir, mais ensuite, finalement, ça faisait partie du quotidien, les événements surprenants, les trucs. Ça m'apparaît être une bonne chose. Je citerai un théologien suisse, qui, c'est à propos du Christ, il dit, l'unité de l'être humain, d'affronter un avenir qu'il ne maîtrise pas. Alors il l'appliquait à Jésus. Mais je crois que même sans référence au Christ, ça me semble parfaitement vrai. C'est que quelqu'un qui n'accepte pas d'avoir un avenir, qui voudrait maîtriser l'avenir avant même de se lancer, humainement parlant, ça me paraît une lacune.
Dans le cadre de l'évolution maintenant de l'intelligence artificielle et de la robotisation vaste, on va dire, pour moi, justement, l'Église avait parlé du travail source de dignité humaine. On a beaucoup poussé aussi le repos, les congés. Mais aujourd'hui, on va vers quoi ?
Service de l'intelligence artificielle, donne des échos extrêmement contrastés sur cette question. Les uns disant, finalement, bien sûr, l'intelligence artificielle, de faire des choses que l'intelligence humaine ne peut pas faire à cause des masses de données qu'elle est capable de maîtriser, ce que le cerveau humain n'est pas capable de faire. C'est effectivement un outil qui ajoute aux capacités du travail. Et puis d'autres qui disent, attention, ça pose des questions éthiques redoutables, parce que un jour, ces robots auront à choisir entre vous et moi, s'ils sont, c'est une façon de parler, on ne sait pas comporter. Alors, moi, personnellement...
Et en plus, il n'y a pas nécessairement un maintien de travail, c'est-à-dire que les...
Là-dessus, moi, je m'inscris en faux contre cela. L'expérience montre que, effectivement, la productivité du travail, on peut dire, les machines, ça molle. C'est sûr qu'il y a un certain nombre de travaux qui deviennent obsolètes, inutiles, et qui ont été enlevés. Mais l'expérience montre que l'augmentation de la productivité qui en est résultée, a permis, de payer des gens, je ne dis pas à ne rien faire, mais à faire autre chose, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans l'entretien des espaces verts ou autre. Vous avez toujours, ce qui compte, c'est l'augmentation de la productivité du travail, c'est ça qui créent les emplois. Or, les emplois ne sont pas nécessairement, effectivement, des emplois directement productifs. Un des professeurs d'économie, M. Gérard Destan de Bernis, pour ne pas le nommer, qui avait conseillé le gouvernement algérien dans la nationalisation des pétroles, et qui ensuite, oui, il allait à la messe le dimanche en voulant y traîner ses enfants. Et il avait toujours cette distinction. Il disait, bah oui, mais il faut bien distinguer le travail productif et le travail inutile. Il y a des travaux utiles, mais qui ne sont pas productifs. Alors, il donnait toujours le même exemple. Oui, les temples et les cathédrales, eh bien, ont été bâtis avec du travail qui n'est pas productif, mais qui n'est pas inutile. Bon. Alors, mais, j'allais dire, si vous augmentez, un peu à la manière, j'allais dire, de l'utopie d'un roman de science-fiction qui s'appelle L'Interdite. C'est une planète qui avait été transformée en un mécanisme à produire à peu près tout ce qu'on voulait. Donc, c'est très bien. Mais imaginons même un horizon comme celui-là, eh bien, vous pouvez toujours avoir que l'on peut créer du travail des personnes de type... c'est pour ça que, disons, je ne suis pas inquiet sur le travail, je ne suis pas inquiet que dans certains secteurs, mais l'expérience montre qu'on en a créé beaucoup. Karl Marx, on parlait un peu de lui, pensait qu'il n'y avait qu'un seul type de travail qui était le travail industriel et salarié, mais il trouvait que le travail des commerçants et le travail des financiers, c'était un travail tout à fait improductif.
Dernière question, s'il vous plaît. J'ai une question. En regardant des rapports annuels d'entreprise, on voit une expression qui paraît être un oxymore. On parle de capital humain. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et d'autre part, ne pensez-vous pas que dans un système de capitalisme libéral financier mondialisé, le travail devient une sorte peut-être d'utopie ou bien d'un arbre ou dans un cadre protectionniste ?
Du capital humain. Il est vrai que la notion de capital s'est étendue d'une façon quasiment universelle. On parle de capital santé, de capital de relation et effectivement de capital humain. Alors ça, c'est typique de quelque chose qui est contraire à toute la tradition de l'Église. Parce que ça réduit l'être humain à sa fonction économique. Mais même lorsque vous dites dans ma capitale de relation, les gens qui raisonnent en disant ben, est-ce que je vais à cette réunion, ah oui, mais qu'est-ce que ça me rapportera? Bon, et eh bien cette façon qui est tout à fait de réagir, eh bien, cette façon-là, effectivement, sorte celui qui est. Oui, parce que effectivement, la dignité du travail, se situe à deux niveaux. D'une part, au niveau de l'œuvre, en quelque sorte, d'une réalisation qui soit objectivable, qui soit repérable par l'essence au travail, et puis le niveau, on pourrait dire, des rapports de cela s'estompe dans un espace où on ne voit plus ni le résultat. Là,